C'est l'histoire du plus ancien groupe terroriste des États-Unis. C'est vous qui le dites. Son nom, le Ku Klux Klan, responsable de 150 ans de violences racistes, insidieuses ou meurtrières de 1865 à nos jours, et dont l'histoire est intimement liée évidemment à celle des États-Unis. C'est ce que montre, et pas seulement, un documentaire en deux parties diffusé ce soir sur Arte dans le cadre d'une programmation spéciale élection présidentielle américaine. Bonjour David Cornbrosa.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce doc Ku Klux Klan, une histoire américaine. Merci d'être avec nous. Et c'est vous que je regardais quand je disais c'est vous qui le dites. Bonjour Lucien Jean-Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes comédien, réalisateur, scénariste. On vous avait découvert en 2009 avec le film La Première Étoile, plus d'un million et demi d'entrées, puis aussi un million et demi d'entrées pour Il a déjà tes yeux, c'était en 2016. Votre actualité, vous êtes ici car vous êtes la voix de ce documentaire. David Cornbrosa, le réalisateur, en quoi le Ku Klux Klan, mouvement né il y a 150 ans, donc un siècle et demi, est un enjeu de la présidentielle américaine d'aujourd'hui, de 2020.
Ah, comme vous le savez, Trump surfe sur ces mouvements suprémacistes blancs. Il ne les condamne pas. Et sachez que lorsqu'il a été élu la première fois, à quelques centaines de mètres du lieu de la Maison Blanche, se tenait une rencontre de suprémacistes qui faisaient Heil de la main, genre victoire, notre candidat est à la Maison Blanche.
Heil comme Heil Hitler ?
Voilà, ouais.
Lucien Jean-Baptiste, oui. Vous suivez l'actualité américaine au jour le jour ?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tout ce qui se passe aux États-Unis n'est qu'un écho, malheureusement, de ce qui a pu se passer dans le passé. C'est-à-dire que les gens ont des peurs et les politiques jouent là-dessus pour pouvoir avoir le plus haut siège.
Pourquoi, Lucien Jean-Baptiste, avoir prêté votre voix à ce documentaire ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce sujet ?
Alors, la première chose, c'est que je connais David Vrovza et Pascal Blanchard, avec qui on avait déjà fait Décolonisation.
Ouais.
Et il m'a rappelé, il cherchait quelqu'un d'investi. Hein, la couleur y joue, je ne sais pas. On peut être blanc et être, au contraire, complètement concerné par cette histoire de Ku Klux Klan. Il est vrai que dans mon métier...
On est à la radio, je dois le dire, David est blanc et vous êtes noir.
Voilà.
Comme
voilà,
ça, je l'ai dit.
Voilà.
On peut nous voir
tout est dit, tout est dit. Tout est dit. Et il est vrai que d'apporter, d'essayer mon petit talent de comédien ou de lecteur, de conteur, eh bien, si ça peut aider à avoir ce rôle de passeur, c'est d'autant plus intéressant.
Alors, je voudrais parler des archives que vous avez récupérées, David Cornbrosa, parce que certaines viennent du Ku Klux Klan lui-même. Comment avez-vous travaillé? Comment avez-vous récupéré ces archives? Qui avez-vous rencontré?
Alors, on a récupéré des archives de dizaines de fonds d'archives différents, des archives du clan, des archives américaines, mais des archives étrangères. Le clan, c'est 150 ans d'histoire, mais c'est 150 ans d'histoire très documentée. Il y a des archives même, parce que le clan, pendant les années 20, est extrêmement populaire. Vous le découvrez dans le documentaire. Il y a plus de 4 millions d'Américains qui sont membres du Ku Klux Klan. Ce qui veut dire qu'il y a des images de défilés du clan à Washington, Pennsylvania Avenue, devant le Capitole, où vous voyez des dizaines, 40 000 militants qui défilent. On a aussi des images, imaginez-vous, de Walt Disney. Walt Disney a fait un film où dedans il y a du Ku Klux Klan, vous le verrez ce soir, ou bien encore Harold Lloyd. Enfin, le clan est extrêmement populaire à l'époque et donc il y a énormément d'archives.
Oui, mais on pourrait supposer que désormais, ils ont plutôt envie que ces archives restent dans les caves, si j'ose dire, et soient non vues.
Oui, mais tout ne leur appartient pas. Elles ont été diffusées à l'époque, elles ont été récupérées. On a aussi plusieurs photos de meetings où on voit des pique-niques du clan à l'époque, avec, vous voyez à l'image, des centaines, voire des milliers de participants. Et c'est extrêmement choquant, en fait, de voir que le clan avait pignon sur rue pendant tant d'années aux États-Unis et, bien sûr, vendait la ségrégation raciale. Aux États-Unis.
On va remonter à ses origines, il y a un siècle et demi, au Ku Klux Klan, une poignée de vétérans sudistes de la guerre de sécession, c'est eux qui ont fondé le KKK, qui ont voulu fonder une société secrète dans le Tennessee. Extrait.
À l'origine, ça a été conçu comme une confrérie, un peu comme une blague. C'était juste une bande de types qui cherchaient un prétexte pour se retrouver, boire une bière et s'entraider.
Si on leur demandait pourquoi ils avaient créé le clan, il répondait que ça avait commencé comme un club pour boire entre amis.
Ils étaient jeunes et s'ennuyaient. Ils vivaient dans une petite ville appelée Pulaski, dans le Tennessee. Et ils ont décidé de fonder une petite société secrète.
Ces vétérans veulent d'abord évoquer les souvenirs des batailles passées et le bon vieux temps du Sud esclavagiste.
David Cornbrosa, il faut rappeler le contexte historique. C'était quoi le contexte historique à l'époque ?
Le contexte historique, c'est que eh bien, la guerre de sécession vient de se terminer. 700 000 morts. Et dans le sud des États-Unis, il y a à peu près 9 millions d'habitants dans les États du Sud. Et il y a 4 millions de Noirs qui deviennent libres. C'est-à-dire que l'esclavage se termine. Et soudain, pour les Blancs, panique. C'est-à-dire, ils se disent, qu'est-ce qu'on va devenir ?
C'est la peur, la peur. C'est évidemment tous ces politiques, que ce soit le clan ou ce que fait Trump aujourd'hui, on construit les choses sur la peur. C'est-à-dire que quand Obama a été élu, eh bien, là, d'un seul coup, ça fait une montée de mouvements extrémistes. Et Trump joue là-dessus, évidemment. Et il y a aussi une autre chose dont je voudrais parler qui est très importante, c'est la guerre des images. Tout à l'heure, vous parliez des images. Il est important, justement, d'avoir ces images pour pouvoir les déconstruire et travailler sur l'imaginaire. Parce que ce qui m'ennuie souvent, aujourd'hui, on le voit dans plein de films, on a une image du Ku Klux Klan un petit peu folklorique, je trouve.
C'est-à-dire pour moi, c'est folklorique et horrible. Ce sont ces types avec le chapeau blanc et au loin, des Noirs pendus à des arbres. Voilà ce que je vois.
Même Tarantino s'amuse avec ça. Il y a toujours cette petite image. Et je trouve que avec ce genre de documentaire où là, on tape, on est vraiment dans le dur, on s'amuse pas de ça. Je sais pas si vous avez vu les Tarantino, il s'amusait à changer la voix. Alors tout le monde rigolait dans la salle, alors que ce sont des gens qui...
Non, ça m'avait complètement échappé. Que faisait Tarantino?
C'est-à-dire qu'il avait changé les voix sous les capuches, ouais. Et ça donnait un effet comique. Alors c'est vrai que c'est bien de se moquer, mais il y a un moment, grâce à ce genre de documentaire, il faut ramener les choses à la réalité et savoir quels sont ces outils de propagande pour pervertir la population.
D'un mot, c'est peut-être pour l'anecdote, et après on va parler de choses plus sérieuses. D'où vient le nom KKK? On sait toujours pas. Ku Klux Klan.
Si, alors voilà, nos historiens nous l'expliquent. On pense que c'est ça vient d'un mot grec ça dit kuklos, ça veut dire cercle, et bien sûr ils l'ont mis à la sauce écossaise WASP, c'est-à-dire White Anglo-Saxon Protestant, et ils l'ont mis avec un K, clan.
On saute des étapes dans l'histoire. On est en 1868, année électorale. Le clan est carrément devenu une organisation paramilitaire qui multiplie les attentats et les lynchages pour dissuader les Noirs d'exercer leurs nouveaux droits qu'ils ont, mais ils ne veulent pas évidemment extraire.
Les coups de fouet étaient une pratique courante héritée de l'esclavage. On doit d'ailleurs remarquer que les hommes du Ku Klux Klan savaient exactement comment fouetter leurs victimes. Ils savaient quelle branche d'arbre utiliser pour obtenir l'effet désiré. Et il faut se souvenir que les coups de fouet peuvent être mortels, surtout à cette époque, avant l'arrivée des antibiotiques. Ça pouvait dégénérer en infection et entraîner la mort en quelques semaines, après de terribles souffrances, à cause des plaies ouvertes laissées par le fouet.
Lucien Jean-Baptiste, vous voulez réagir?
Oui, parce que c'est vrai qu'on est très centré sur la question noire, effectivement, mais le clan, c'est les Noirs, les Juifs, les communistes, tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui ne leur ressemble pas. Il est là, le combat.
Enfin, donc, les communistes, en 1868, ça n'existait pas encore.
Non, mais aujourd'hui, oui, mais le clan ils existent aujourd'hui. Le clan continue ce travail. Donc, c'est important de le souligner que nous sommes tous concernés. Voilà, parce que je ne voudrais pas que les auditeurs disent « Oh, bah, c'est une histoire de Noirs, ça ne nous concerne pas ».
Même les catholiques
pas.
Dans les années 20. Hein, les catholiques aussi sont des cibles du clan dans les années 20, parce qu'il y a une grande immigration catholique qui vient d'Europe vers les États-Unis, et donc ils sont des cibles prioritaires également.
Voilà, évidemment. Et même quand ce sont que les Noirs, on est tous ici concernés. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous restez avec nous, Lucien Jean-Baptiste et David Cornboza. On continue à parler de ce documentaire en deux parties. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ku Klux Klan, une histoire américaine. On est avec Lucien Jean-Baptiste, comédien. Il fait la voix off de ce documentaire, et son réalisateur, David Cornboza. Est-ce qu'à l'époque, il y a eu un mouvement qui s'est opposé au Ku Klux Klan, ou est-ce que ce mouvement était en roue libre ?
Non, plusieurs mouvements sont opposés. Il y avait beaucoup d'Afro-Américains aussi qui sont opposés au clan. Malheureusement, le clan a toujours su jouer des institutions. Il était excessivement soutenu dans le Sud, parfois dans une ville, dans un comté. Le shérif était du clan, le juge était du clan, le jury était du clan. Et donc la justice, la vraie justice ne passait pas. Et c'était une justice blanche, ségrégationniste qui passait. Et donc le clan avait pignon sur eux.
Peut-être que le paroxysme, c'était en 1868, à l'approche de la présidentielle, des tribunaux, des églises, des bureaux de vote sont incendiés. Plus de 1000 meurtres sont commis en 4 semaines. Rien que ce chiffre, 1000 meurtres en 4 semaines. Extrait.
La priorité du premier clan a été la neutralisation politique, ce qu'on pourrait appeler le politicide des Afro-Américains du Sud. Il a ciblé en particulier les Afro-Américains qui votaient. Et encore plus, ceux qui étaient dans la fonction publique. Souvent, le clan n'est même pas allé voir les Afro-Américains fonctionnaires pour leur dire « Si vous ne démissionnez pas, on reviendra ». Il les a directement assassinés. parce qu'il avait compris que ces gens étaient déjà considérés comme des leaders dans leur communauté. Le clan savait que les autres Afro-Américains les voyaient comme des exemples à suivre pour faire valoir leurs droits civiques dans la société américaine. Il fallait donc les éliminer.
David Broza, avant qu'on parle d'actu, on va parler d'argent. Vous expliquez aussi dans le documentaire que le clan, c'est aussi un business. Ça coûtait combien d'adhérer? Ça rapportait quoi?
Alors en fait, ils ont construit une sorte de pyramide pour pouvoir recruter très largement aux États-Unis. Et donc si par exemple je vous recrutais au Ku Klux Klan, je pouvais garder 40% de vos frais d'admission. Mmh. À l'époque, c'était une dizaine de dollars, mais ça correspond à environ 120 dollars aujourd'hui. Donc en fait, le clan s'est vite enrichi parce que tout le monde voulait récupérer sa mise. Au fur et à mesure de rentrer dans le clan, ils voulaient récupérer les mises. Et donc très vite, on est passé de 3000 membres à 300 000 membres et puis bientôt à 4 millions de membres au cœur des années 20.
Aujourd'hui, combien de membres? Est-ce que le clan est toujours actif? Déjà, il est légal.
Oui, alors c'est ça le problème aux États-Unis, c'est que la liberté d'opinion permet à des organisations comme le Ku Klux Klan ou d'autres d'exister, parti nazi et autres, vous voyez. Donc aujourd'hui, on estime à peu près à 6000 membres les effectifs du clan aux États-Unis, mais il y a un nombre infini d'organisations suprémacistes, et le clan a fusionné avec les néo-nazis.
Lucien Jean-Baptiste, quelle résonance avec l'actualité immédiate, avec le meurtre par exemple de George Floyd, avec le mouvement Black Lives Matter?
On a déjà comme événement, c'est Charlottesville. C'est-à-dire que, vous savez, en cette période où on parle de déboulonner des statues, je crois que c'est la statue de Robert Lee qui devait être déboulonnée. Et là, il y a eu un rassemblement suprémaciste contre antifasciste. Et là, d'un seul coup, on a vu deux fronts s'opposer avec, effectivement, des drapeaux, des choses liées au Ku Klux Klan. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'un gamin de 20 ans, nazi, néo-nazi, a fendu la foule et s'est sauvé. Et ça, je veux dire, en 2020, ça a l'air complètement incroyable, mais ça existe encore aujourd'hui et c'est contre ça qu'il faut continuer à lutter, informer, parce que ils continuent, tous ces genres de mouvements extrémistes continuent de trouver des adhérents avec des techniques marketing très au point, et c'est contre ça qu'il faut continuer de lutter et d'informer les gens, grâce à ce type de documentaire.
Il y a eu un avant et un après dans la politique américaine. Il y a eu l'élection d'Obama, un président noir à la Maison Blanche. Qu'est-ce que ça a changé pour le clan? Est-ce que ça a apaisé les tensions ou au contraire ça a cristallisé les haines?
J'aurais tellement aimé vous dire formidable, il y a eu Barack et puis tout a été réglé. Malheureusement non, ça a fait une avancée, mais d'un autre côté effectivement ça réveille.
Ça a réveillé la bête immonde, bien sûr, puisqu'il y a énormément de groupes suprémacistes qui ont dit il faut se sortir de la Maison Blanche, il est illégitime, et ils ont fait bien sûr plein de fausses informations, fake news sur lui. Où est-il né? Est-il musulman? Etc. Enfin, vous vous souvenez de cette campagne affreuse, et Trump en a profité, c'était le contre-coup.
Et puis il y a aussi toutes ces manifestations qui ont lieu aux États-Unis venaient de la police américaine. Je précise qu'il n'est pas une police américaine, c'est une police d'État, c'est pas dirigé par les mêmes personnes, mais quand même on a l'impression qu'il y a une sorte malheureusement d'unité. Est-ce qu'il y a un racisme systémique dans la police américaine? Et comment dire, un racisme systémique venant des idées infusées par le clan?
Alors, dans la police, je pourrais pas dire ça comme ça, brûle pour point, 9h35. En revanche, les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit sur le racisme. On est bien d'accord. Je veux dire, de la traite négrière à tout ce qui s'est passé dans son histoire, on l'a vu.
Ils ont déjà commencé par exterminer les peaux rouges.
C'est un système qui existe aux États-Unis, le racisme. Mais là, comme on a en Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid, donc on est sur des cendres très très chaudes.
Ouais, pendant 150 ans, un certain nombre d'années, en tout cas, ils ont refusé que les Afro-Américains s'élèvent dans la société. Vous avez entendu l'extrait, c'était un politicide, c'est-à-dire le premier clan assassinait des Afro-Américains qui montaient dans la société, qui pouvaient être maires, qui pouvaient être députés, qui pouvaient être sénateurs, pour justement qu'il n'y ait pas d'exemple pour la communauté afro-américaine, et cela a continué même après la fin de la ségrégation dans les années 60.
J'ai posé la question à Lucien Jean-Baptiste, mais j'ai pas posé la question miroir à vous, David Cornbrosa. Pourquoi ce choix de Lucien Jean-Baptiste pour faire la voix off de votre documentaire?
Je suis pas cher. Un peu d'humour.
Excessivement cher. Non, mais Lucien, moi d'abord, j'adore son travail en tant qu'auteur-réalisateur et interprète. Et j'avais déjà travaillé avec lui sur Décolonisation du sang et des larmes, qui est passé la semaine dernière. Et il a une voix formidable, on se comprend bien dans le travail, et j'ai trouvé qu'il il donnait du souffle à ce film.
Parce qu'il y a une question dans la question, évidemment. Lucien Jean-Baptiste, vous faites beaucoup de doublages, vous doublez notamment Will Smith,
entre autres,
Chris Rock, Martin Lawrence et d'autres. Vous ne doublez que des noirs?
Ouais, c'est bien, ouais. Ces rapports.
C'est vrai?
Oui. Oh non, mais c'est un vaste débat.
J'aimerais bien vous avoir. Là, ça m'intéresse vraiment.
Ça vous intéresse pas, je vais vous dire tout simplement.
Est-ce que les noirs ont des voix de noirs? Je pose la question à vous qui êtes comédien et à vous qui êtes réalisateur. C'est très important.
Je suis
c'est très important, c'est vraiment même une question politique.
Non, mais sur les voix, je suis un petit peu spécialiste, humblement. Si vous voulez, la voix, ça fonctionne par les résonances sur le masque. Et il est vrai qu'en fonction de son physique, on a une voix à peu près similaire. On sait que les Asiatiques ont certains types de timbres, les Italiens ont un timbre un peu plus voilé, etc. C'est des placements de langue, etc. Alors, maintenant, ce qui se passe en doublage, c'est que souvent, quand il y avait des noirs dans les films américains, les garçons blancs qui les doublaient avaient une tendance à, entre guillemets, je vais dire, de se négrifier, c'est-à-dire trouver une couleur noire. Et donc, ça donnait des mecs qui parlent comme ça, mec, ça oui, c'est tout. Et on disait,
il est bon tuyau dans Star Trek.
Eddie Murphy, même si c'est Médondo qui a lancé ce type de choses. Donc, à un moment, les studios se sont dit, faut qu'on arrête là, parce que les mecs essayent de se la jouer, entre guillemets, black, un mot que j'aime pas trop, mais bon, c'est peut-être que j'ai. Et donc, ils se sont dit, faut qu'on trouve des gens qui aient une voix naturellement noire, entre guillemets. Alors, on va dire, globalement, le noir a une voix plutôt, un timbre de voix plutôt grave, un peu plus grave que la moyenne. Voilà, c'est en cela. Après, je vais vous dire quelque chose, on s'en fout finalement de la couleur. Ce qui est important, c'est de mettre la bonne voix sur le bon personnage. Voilà.
La même question pour vous. Est-ce que la couleur de peau a influé dans votre choix de Lucien Jean-Baptiste pour ce documentaire et le précédent?
Oh le piège. Non, il n'a pas influé. Il n'a pas influé.
Bah alors,
non,
vous dites que c'est un piège?
Non, parce que si je dis que c'est influé, vous allez me dire aussi, cela, c'est des
Non,
Lucien, moi j'adore son travail. On cherchait une voix, il s'est tombé sur lui, et puis il a accepté. On a fait un test, on a fait un petit essai, un bout d'essai. Il est venu en salle de montage, on s'est testé l'un l'autre. On a vu qu'on pouvait s'entendre, et je vous dis, je suis un admirateur de son travail.
Il faut vraiment pas avoir peur de dire que oui, c'est comme s'il avait fait un documentaire sur les femmes, peut-être une féministe ou quelqu'un d'hyper concerné. Moi, je suis hyper concerné, avant même de parler de couleur.
Non, mais tu as raison.
On voit dans mes fictions, dans tout ça, c'est une question qui est centrale pour moi. Donc ça peut aider.
Il est concerné, je voudrais qu'il ait donné le maximum.
Et je ne voudrais surtout pas que ces deux dernières questions obèrent la qualité de ce documentaire. Ça s'appelle Ku Klux Klan, une histoire américaine. C'est signé David Cornbrosa. La voix, c'est Lucien Jean-Baptiste. Merci d'avoir été avec nous.